Et en réalité, heureusement, c'est pas aussi compliqué que dans les temps des prophètes, quoique on ne sait pas quels sont les temps qui nous attendent aujourd'hui. Mais une chose est certaine, c'est que si on regarde les éléments transverses du service chrétien, on réalise que la difficulté fait partie du service. Que ce soit la constance de la tâche, que ce soit les luttes intérieures que quelqu'un peut avoir dans le service, les luttes avec le doute, pas forcément le doute de Dieu ou de son existence, mais le doute d'être capable, le doute d'être utilisé, d'être utile même dans le service de Dieu, le doute de pouvoir tenir face aux pressions intérieures de la chair, du monde et du diable qui s'abattent sur celui qui sert. Parfois, c'est aussi la critique et l'opposition. Je sais qu'en Suisse, ça n'a pas lieu. Les gens sont près de leurs pasteurs et de leurs serviteurs. Mais je crois savoir que tu reviens en France où nous mangeons au barbecue les pasteurs après les cultes. Et on se fait un grand plaisir de disséquer leurs faiblesses, leurs forces rapidement. Et leur faiblesse surtout, et le poids des critiques parfois est difficile. Alors fort heureusement, j'ai pas mis dans cette liste ce qui nous était dit de l'apôtre Paul avec tout ce qu'il a enduré, tellement c'est au-delà, heureusement, de ce que nous pouvons vivre. Mais le service spirituel, le service de l'Église, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est difficile de savoir où on en est. Je crois savoir que tu connais bien en voiture. Ça m'émerveille parce que j'y connais absolument rien. Au grand regret de ceux qui sont près de moi. Je n'ai pas les mains d'un bricoleur comme Franck. Je n'ai pas les mains d'un expert en voiture comme Damien. Mais au moins l'avantage, c'est que quand on examine une voiture qui ne fonctionne pas, on peut trouver la cause et on peut la réparer. C'est beaucoup plus difficile avec une église. C'est beaucoup plus difficile avec son propre cœur. Et en s'engageant au service chrétien, tu t'engages dans une aventure qui est à la fois extraordinaire et exceptionnelle. Et cela nous concerne tous. On est impliqués dans un service avec Jésus, dans un amour avec Jésus, dans un chemin avec Jésus. Mais j'aimerais, pour cette occasion, ouvrir la parole de Dieu en 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 8 à 13. Et je crois que cela fait suite à ce que Franck a prêché la semaine dernière. Donc je m'inscris dans cette sorte de mini-série où si on devait retenir une chose après la lecture de ce texte, c'est que nous marchons avec Jésus et selon Jésus jusqu'à la fin pour que d'autres puissent marcher avec lui. Ce n'est pas pour soi le service, c'est pour que d'autres puissent marcher avec lui. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'était la parole de Dieu. Quelques éléments du service chrétien, encore une fois, je peux le résumer de cette manière. Nous marchons avec Jésus et selon Jésus jusqu'à la fin, pour que d'autres marchent avec lui, et c'est la finalité de notre service. À tous, que nous soyons pères, que nous soyons simples voisins de non-chrétiens, d'amis, collègues, nous marchons avec Jésus jusqu'à la fin pour que d'autres en profitent. Et le premier point que je voudrais relever, qui sera probablement le plus long, si j'en ai quatre, donc si jamais vous voulez voir à quel moment je vais m'arrêter, il y en a quatre points, mais le premier est plus long, j'espère qu'il n'y aura pas de panique à ce sujet. La première remarque que je voudrais faire, c'est qu'au centre du service, il y a Jésus le Messie. Ça, c'est surprenant que Paul écrive à un pasteur et il commence son propos dans ce verset avec « Souviens-toi de Jésus-Christ ». C'est un peu comme si on demandait à un joueur de football « Souviens-toi du ballon ». C'est un peu une évidence, n'est-ce pas ? Ou bien un couturier, souviens-toi de l'aiguille et du fil. Enfin, c'est une évidence. Ou un médecin, n'oublie pas ton stéthoscope. Enfin, vous voyez où je donne d'autres exemples où ça va. C'est un peu le beuh-a-ba, n'est-ce pas ? Jésus-Christ pour un pasteur, c'est le centre. Jésus-Christ pour un chrétien, c'est le centre. Et l'idée, c'est que Damien, et pour nous tous vraiment, nous devons continuellement avoir Jésus en tête pour notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ça signifie essentiellement quatre réalités. Paul attire peut-être l'attention sur l'humanité de Christ, brisée par la mort, mais reconstruite par la résurrection, l'ascension et la gloire. Et finalement, quand on est découragé, quand on passe par des moments compliqués et difficiles, nous pouvons nous souvenir de ce cycle de Jésus, Fils éternel de Dieu, qui s'incarne et vit une vie compliquée, où toutes les forces humaines et spirituelles ont tenté de le détruire, de le faire chuter, de le mépriser, ou même de le faire roi sans que ça passe par la croix. Toutes les tentations, aucune ne lui a été épargnée. Il a été broyé par la mort, mais ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et quelque part, quand on passe par des moments difficiles, et j'imagine que tout chrétien passe par des moments difficiles. Si vous n'êtes pas passé par des moments difficiles en tant que disciple, s'il vous plaît, dites-moi comment vous faites. Parce que j'ai besoin d'apprendre de vous, n'est-ce pas ? La vie est compliquée, la vie chrétienne est compliquée. On est appelé à prendre sa croix, c'est-à-dire à être crucifié avec Jésus, et c'est dur. Et le fait de se souvenir de Jésus, qui passe par là, mais qui ressort dans la gloire, est un encouragement. Il paraît que l'apôtre Pierre a vu sa femme mourir crucifiée. Je ne peux pas imaginer la souffrance que cela devait représenter pour elle et pour lui. Et la seule chose qu'il pouvait dire, c'est « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Souviens-toi de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3 nous dit « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, ce qui est notre cas à tous, n'est-ce pas ? Nous sommes, par notre conversion, morts à une ancienne forme de vie, né de nouveau pour une autre forme de vie. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ce cycle-là, j'ai besoin de me l'imprégner. Parce qu'il y a parfois des découragements ou des tentations réelles et destructrices, qui font que je peux oublier la gloire à venir. Rester les yeux fixés sur Jésus, c'est passer au-delà des problèmes de l'existence que nous allons tous rencontrer pour regarder à celui qui a tout vaincu et qui est assis à la droite du Père dans la gloire, gloire que nous allons rejoindre. Amen, alléluia. C'est là où je suis modérément charismatique, hein. Je n'ai pas dit « Alléluia !» Deuxième réalité, peut-être que Paul attire l'attention sur le côté divin du Christ lorsqu'il souligne qu'il est le fils de David, celui qui est appelé Seigneur, celui-là même qui porte le nom de Yahweh, le nom même de Dieu. Le fait de savoir que Christ est avec nous est un encouragement face aux difficultés que l'on peut rencontrer. Le fait que ce soit pas simplement un prophète, pas simplement un homme, mais Dieu lui-même incarné qui est en nous par son Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, ça devient source de force pour faire face à ce qui nous attend. À des hommes, cinq d'entre eux, dont je donnerai l'histoire dans un instant, à cinq jeunes hommes qui venaient de recevoir leur diplôme de Lausanne du temps de Calvin et qui prêchaient dans ma belle ville de Lyon et qui allaient mourir brûlés, vifs pour leur foi. Calvin écrit « Gardez cette phrase à l'esprit, celui qui habite en vous est plus fort que le monde. » C'était le 10 juin 1552. « Celui qui vit en nous est Dieu. » Et en cela, il est capable de nous porter au travers de toutes les vicissitudes de la vie chrétienne et du service chrétien. L'apôtre Pierre le dit ainsi, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En sorte que si sa divine puissance nous a tout donné ce dont on a besoin, parce qu'il est Dieu grand et puissant, alors on peut faire face. Lorsque j'étais gamin, il y a longtemps, à l'école, il y avait toujours des gens plus forts qui faisaient peur, parce que je n'étais pas de cette catégorie-là. Et il m'est arrivé une fois ou deux de dire un mensonge du style « mon père est policier », alors attention. À cette époque, ça faisait peur, aujourd'hui moins. Mais... Et on me laissait tranquille. Aujourd'hui, je peux dire « j'ai mon fils qui est policier ». Ça... Mais il est loin, il est aux États-Unis. Bref, le fait de dire que l'on a celui qui est grand, puissant et fort, cela peut nous aider à nous appuyer sur lui pour vivre. Une troisième réalité que je vous suggère et qui nous invite à penser à Jésus-Christ, à continuellement garder les yeux fixés sur Jésus, c'est qu'il est, lui, le centre de toute l'Écriture. Vous avez remarqué que dans le texte, il est question de Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. Et en réalité, il y a 300 prophéties ou allusions qui parlent de Jésus avant qu'il n'arrive dans l'Ancien Testament. Il naît d'une femme, conformément à Genèse 3:15. Il naît d'Abraham, conformément à Genèse 12 et à la promesse qui lui est faite. Il naît de David, etc., etc. Et en fait, lorsqu'il se présente comme celui qui est mort et ressuscité auprès de deux de ses disciples, qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé, Jésus dit, et leur explique en Luc 24, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans la gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Luc 24. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque nous lisons l'Écriture, il nous faut voir en quoi Jésus est là comme l'essence et le principe même. Et Damien, si tu prêches un évangile qui se limite à une forme de contrat, et si nous prêchons une vie chrétienne qui se limite à une forme de morale, en fait, le christianisme n'est pas intéressant. Mais si nous prêchons un Christ vivant que nous voulons aimer, en attendant de le rejoindre dans la gloire, soudainement, il y a quelque chose qui est brillant dans notre appel. On vit avec Jésus parce qu'il est central. Et c'est intéressant de voir combien les caractères, les personnages de l'Ancien Testament incarnent et reflètent ce Jésus. Par exemple, il y a un Abel parfait, pas comme celui dont il est question en Genèse chapitre 4, qui a répondu, qui a été tué alors qu'il était innocent et dont le sang crie non pas pour notre condamnation, mais pour notre acquittement. Il y a un Abraham qui est parfait, qui a répondu à l'appel de Dieu et qui a tout laissé, le confort de sa famille, pour marcher dans l'inconnu afin de créer un peuple nouveau. Il y a un Isaac parfait, qui n'a pas seulement été offert par son père sur la montagne, mais qui a vraiment été sacrifié pour que nous vivions. Il y a un Jacob parfait qui a lutté et qui a pris le coup de la condamnation que nous méritions. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout au long de l'Écriture, il y a des personnages qui reflètent et témoignent de Jésus dont nous avons tellement besoin. En fait, Jésus est le méta-récit de toute la Bible. Jésus est le grand récit de la vie chrétienne. Jésus est le centre de notre service. Jésus est le centre de l'Église. Il est le centre. Jésus est le centre. J'écoutais un podcast du scientifique le plus athée et le plus militant du monde. Il est britannique, il s'appelle Dawkins, il va bientôt mourir et comprendre son erreur. Et son méta-récit à lui, c'est que la vie, c'est simplement une machine à reproduire. Et toute sa conception du monde se fonde sur cela. Et à son troisième mariage, il doit réaliser que c'est bien pauvre, en fait, son méta-récit. Nous, notre méta-récit, c'est Jésus, c'est une personne que nous présentons, que nous aimons, que nous défendons, que nous proposons, que nous exemplifions et auprès de qui nous invitons ceux et celles qui nous entourent à connaître et à marcher. Je pense que Paul, qui est sur le point de mourir, qui parle à Timothée, qui lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », ça doit nous conduire à une forme d'adoration fréquente de Jésus. Même quand la vie, la chose que nous vivons est compliquée. Je pense que ça doit nous conduire à une forme de méditation de l'Écriture qui nous fait chaque fois poser cette question, comment est-ce que je peux vivre ce qui est dit ici avec Jésus ou en Jésus? Je pense que c'est aussi une forme de vie quotidienne en actant dans sa tête, je vais vivre cette journée devant Jésus, même dans nos péchés. Ils ne sont pas éloignés de lui. Et donc, ça nous permet et ça exige que nous puissions les amener devant lui lorsque nous en prenons conscience. C'est ne jamais séparer Jésus de tous nos événements, de tous les éléments de notre existence, bons et mauvais. Ça doit nous conduire à une forme d'imitation que Paul souligne. Hein. Suivez donc mon exemple comme moi de mon côté, je suis celui de Christ. C'est 1 Corinthiens 11:1 qui le dit. Il y a une forme de j'entre avec Jésus dans la vie et je suis son exemple de mort et de résurrection. C'est aussi le fait de le servir en face de lui. Le jour vient, et c'est assez effrayant pour ceux qui prennent la parole, où nous serons devant celui dont la Bible dit qu'il jugera plus sévèrement ceux qui enseignent. En sorte que ton service doit être en face de Christ, nous rendrons compte des paroles que nous formulons. Et puis, je pense aussi, quand je vois ces généalogies qui est brièvement mentionnée dans ce texte, combien Paul a dû se défendre des hérésies ou défendre des hérésies qui cherchaient à corrompre une juste doctrine de Christ avec une forme de judaïsation de la foi chrétienne. Et donc, se souvenir de Christ, c'est le garder pur de toute corruption doctrinale qui parfois et régulièrement, en fait, souille la beauté et la puissance de Christ. Et j'ai parlé de l'influence judaïsante, mais je trouve qu'il y a une influence païenne de plus en plus grandissante, où il y a une forme de syncrétisme entre un Jésus et une sorte de chef spirituel qui serait là pour accomplir tous nos désirs. C'était mon premier point. Et si vous deviez le résumer en un mot, c'est Jésus. Si vous retenez ça, c'est bien pour un message du dimanche matin. Jésus est le centre de notre service, Jésus le Messie, celui qui est venu. Souviens-toi de Jésus, Damien. Deuxième point, le contexte du service, c'est la souffrance. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul enchaîne avec un lieu commun que de son temps et qui est peut-être moins le cas pour nous, quoique, c'est que associé au service chrétien, il y a de la souffrance. Il y a le rejet des proches et j'ai le privilège de travailler dans des pays où venir à Christ est forcément un rejet de la culture d'où on vient. Et ça me fait prendre conscience que de la valeur de ce que Jésus dit lorsqu'il dit de prendre le chemin étroit. Et vous qui êtes jeunes, enfants, pré-ados, adolescents, je suis sûr qu'il y a plein de copains qui veulent vous entraîner. Et c'est beaucoup plus tranquille de rester entre copains, entre amis, à rire les uns des autres, à être accepté dans le type d'activité que les uns et les autres font, que ce soit des choses plus ou moins sympas, mais qui peuvent aller jusqu'à des choses graves, que ce soit la drogue, l'alcool ou d'autres, des relations qui soient vraiment destructives. Et Jésus dit que le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à la vie est un chemin étroit. C'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il est étroit parce que vous y entrez seul. C'est que quelque part, quand tu viens à Christ, il y a tous tes copains qui disent « mais t'es fou ». Et il y a un coût qui est associé au fait de venir à Christ. Pour beaucoup de gens, venir à Christ, c'est forcément s'éloigner de ce que tous ceux que nous aimons et qui validaient notre manière de vivre ou qui donnaient du sens à notre manière de vivre s'opposent à cela. Et que l'on soit né dans une famille chrétienne ou que l'on ait découvert la foi chrétienne, comme ça a été mon cas à 18 ans, à un moment donné, on entre et on entre seul devant Jésus. Dieu est père, mais il n'est pas grand-père, n'est-ce pas? Et le fait d'entrer personnellement dans cette relation avec Dieu est parfois douloureuse. Le rejet des proches, l'opposition parfois des États. Je me souviens d'un dimanche matin, C'était la rentrée en septembre dans notre église. Et comme on n'était pas loin des universités, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient là. Super, un super moment. L'église était remplie. Toujours un grand enthousiasme les débuts de septembre lorsque tout le monde est là. Et puis, j'étais pour une fois assis devant. Il y avait pas mal d'étudiants autour de moi. Et puis, on commence à chanter. Et il y a une jeune femme que je n'avais jamais vue à ma gauche qui se met à pleurer. Alors je sais que parfois on chante mal dans les églises évangéliques, mais j'avoue que j'étais un petit peu offensé qu'elle se mette à pleurer quand on s'est mis à chanter. Et donc voilà, je regarde, et les larmes coulent. Bon, elle essaie quand même de chanter, mais les larmes coulent et je monte, je prêche, je descends de l'estrade et tout de suite je viens la voir pour lui dire « ça va ?» Oui, ça va. J'étais un peu surpris de vous voir pleurer alors qu'on commençait à chanter. Puis moi, j'étais prêt à lui donner quelques exhortations pastorales. Et elle me dit, oui, je viens d'un pays où la foi chrétienne est interdite. Et chaque fois que nous nous réunissons, il y en a qui montent la garde pour prévenir de la venue des policiers. Et quand on chante, on chuchote. C'est la première fois de ma vie que je chante un cantique à voix haute. J'avais le cœur, c'est moi qui me suis mis à pleurer à ce moment-là. J'avais le cœur brisé de voir que c'était sa réalité et que là, à 20 ans, 21 ans, pour la première fois de sa vie, elle pouvait chanter à gorge déployée les louanges de Dieu. La souffrance qui vient des proches, des états, la souffrance aussi qui vient parfois des habitudes de la chair. Venir à Christ, c'est mourir à quelque chose. C'est mourir à une autre manière de vivre et c'est douloureux. Parfois, c'est la puissance des démons qui s'acharnent. Je vois ceux et celles qui viennent du monde de l'occultisme. Il peut y avoir des temps un petit peu tendus où des esprits vont tenter de maintenir leur présence et leur poids. Alors, il n'y a pas besoin d'exorcisme ou quoi que ce soit. En Christ, nous avons tout pleinement et nous devons simplement opposer avec fermeté et clarté le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui dit qu'ils ont été vaincus. Colossiens 2,15 nous dit que Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Si nous avons Christ, nous avons tout, nous sommes protégés, libérés. Colossiens chapitre 1 nous dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il y a vraiment une délivrance, mais il reste des pressions. Lorsque Paul écrit cette lettre, il est emprisonné pour la deuxième fois à Rome. C'est son dernier courrier. Il sait qu'il ne sortira pas vivant. Dans les deux années qui suivent ce courrier, il sera décapité. Et tout au long de cette lettre, on voit à quel point la souffrance fait partie du chemin. Il termine cette lettre avec une liste de gens qui l'ont abandonné, chapitre 4, verset 10. « Déma m'a abandonné, il a aimé le monde présent, il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. » Et verset 16, « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. » J'ai eu le triste privilège de témoigner à un procès aux assises. C'était grave, c'était un acte, des actes de pédophilie. Et je témoignais donc et je me suis retrouvé en bas dans un tribunal surélevé avec à ma gauche les avocats du procureur, à ma droite les avocats de la défense. Et on a un sentiment vraiment d'écrasement et on est seul. Alors, j'étais dans une position facile, je faisais qu'apporter un témoignage, il n'y avait aucun enjeu pour moi. Mais je me suis dit, waouh, Paul, seul devant la puissance romaine, ça devait être quelque chose. Je vous ai parlé de ces cinq jeunes hommes. C'était en avril 1552, ils venaient de terminer leurs études, pas à l'IBG, mais à l'Académie de Lausanne. Et ils sont passés par Genève, peut-être ils ont rencontré Calvin quelques jours, et ils se rendaient en France pour préparer, pour annoncer l'évangile. Ils s'appelaient Martial Alba, Pierre Navierès, Bernard Seguin, Charles Favre et Pierre Escrivain. Et sur la route, ils rencontrent quelqu'un avec qui ils sympathisent, sans réaliser que c'est un homme qui veut les attirer chez lui pour leur tendre un piège. Mais il prétend s'intéresser à l'évangile et les cinq vont dans sa demeure où ils se font attrapés par les soldats du roi et ils sont jetés dans une prison à Lyon où ils resteront pendant un an avant de périr brûlés. place des terreaux. Pour ceux qui aiment cette belle place, vous pouvez vous souvenir qu'il y a 5 hommes qui sont morts en récitant des versets, presque la joie au cœur de retrouver leur sauveur. Wow. Alors, pas trop de risques pour nous aujourd'hui, ça peut changer. Mais en réalité, je trouve que le monde offre des souffrances particulières. Le pluralisme martèle notre conviction qu'il y a un seul sauveur, une seule parole révélée, n'est-ce pas ? Vous parlez de cette manière à des gens qui vont faire un câlin aux arbres et ils vous trouvent vraiment sectaire. Hein. Vous parlez de Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, dans une réunion où on rassemble des imams, des prêtres catholiques, des pasteurs, ça, on fait tâche, on fait vraiment tâche dans ce monde. C'est pas facile. Dans un monde qui est très individualiste, c'est difficile d'essayer de créer une communauté dans l'Église. J'ai appris, et c'est un pasteur qui travaille, je crois, en Suisse, qui me l'a appris, savez-vous qu'il y a un mois de l'année où les pasteurs donnent plus fréquemment leur démission? Le mois de mai, en France. Peut-être pas le cas en Suisse. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, n'est-ce pas, et de ponts. Et beaucoup des gens de l'Église vont dans leur résidence secondaire, vont prendre des vacances. Et lui, le pasteur, il est plutôt payé au lance-pierre. Et puis, il faut qu'il assure le culte. Et donc, il n'a pas de ce genre d'opportunité. Petit à petit, il se voit que finalement, c'est pas facile le ministère. Et c'est le mois où il y a le plus de démissions de pasteurs en France. J'avais jamais pris cette donnée. C'est pas une souffrance, hein. Mais c'est une réalité que parfois, c'est un petit peu difficile. Et vous la connaissez, cette souffrance particulière du petit sacrifice, n'est-ce pas? Si vous êtes engagé dans les écoles du dimanche, si vous êtes engagé dans l'installation de ces lieux, si vous êtes engagé dans une église de maison, si vous êtes engagé pour voir des hommes, des femmes qui souffrent, qui luttent, avec que vous cherchez à encourager, si vous passez du temps à écrire un petit mot aimant, affectueux à quelqu'un qui passe par des temps difficiles, vous savez que ça prend du temps sur vous. La souffrance, le don, fait partie des choses. Mais il y a, et ce sera le troisième point que je voudrais souligner, une motivation particulière que j'aimerais placer sur tes épaules, Damien, et sur nous tous, c'est que notre comportement peut avoir des conséquences magnifiques ou dramatiques sur ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul souligne que s'il accepte toutes ces difficultés, c'est pour un objectif particulier, les sauver. Verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Moi, j'aime bien la manière dont c'est formulé, parce que parfois, nous, les évangéliques, on est un petit peu austère. On parle du péché avec juste titre, on parle des conséquences du péché avec l'enfer, avec une séparation éternelle d'avec Dieu, et ça brûle mon cœur quand je pense à mes amis que j'aime et pour qui je prie. Mais regardez la manière dont l'apôtre Paul parle du salut, un peu à la manière de Colossiens. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia! Pardon. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dire que venir à Christ, ce n'est pas simplement obtenir le pardon des péchés. Quand je dis simplement, quelle horreur, c'est énorme. Mais c'est obtenir le pardon des péchés pour une vie de gloire, avec un Christ glorieux, dans un corps glorieux, dans un univers glorieux, pour des aventures glorieuses. C'est ça qui nous attend. Et Paul dit, je supporte tout à cause des élus. Il y a une finalité dans les difficultés et les sacrifices que l'on consent. La position que je tiens a des conséquences pour ceux qui m'observent, ceux que Dieu a choisis. Qu'est-ce qui mérite de persévérer? Qu'est-ce qui mérite d'être fidèle dans une église? Qu'est-ce qui mérite d'être fidèle en Christ, même quand c'est difficile? Le salut des sauvés. Parce que voyez-vous, Il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés du christianisme à cause des chrétiens, n'est-ce pas? Alors, c'est souvent une excuse, hein, parce que en réalité, il y a qu'un seul héros dans la Bible, c'est Jésus, et il y a aussi qu'un seul héros dans l'Église, c'est Jésus, hein. On est tous pécheurs, on est tous imparfaits, on va tous s'offenser les uns les autres. Parfois, c'est juste une excuse. Mais parfois, c'est plus grave qu'une excuse. Les guerres de religion sont parfois mises en avant, même si elles sont que 8% des conflits du monde, elles ont existé, et parfois, ça fait du mal au témoignage de Christ. Le nombre de personnes dans mon petit environnement en France qui sont dégoûtées du christianisme parce qu'ils ont subi les dommages de prêtres ou de pasteurs, parfois dans leur chair, parfois dans leur honneur, et qui refusent tout lien avec la foi chrétienne. Je supporte tout à cause des élus. C'est un peu comme des parents qui disent « Bon, notre couple est difficile, mais on va tout supporter pour nos enfants. On a une espérance vivante, on a une gloire qui nous attend. On va patienter au travers de certaines difficultés. » La même chose s'applique aussi à l'Église. Et quelque part, il y a une forme d'optimisme chez Paul que l'on retrouve lorsqu'il ouvre sa lettre aux Corinthiens. Vous savez que l'Église de Corinthe est probablement la pire Église du Nouveau Testament. Ça me surprend toujours qu'elle soit mise en exemple, hein, dans les dons spirituels. C'est vraiment une église qui avait des difficultés, grosses difficultés. Moralité, division, désordre, waouh, ça foisonne. C'est pas l'église que vous voulez, dont vous voulez dire « Ouais, moi je suis pasteur à Corinthe ». Je dis « Ah ouais, ah t'es si mauvais que ça ». Enfin, vous voyez, c'est le genre de situation, de réputation. D'ailleurs, Paul était gêné de cela vis-à-vis d'autres, parce que ça, être pasteur à Corinthe, c'est être pasteur d'une église en échec. Et pourtant, il dit qu'il rend grâce à Dieu parce qu'il voit le début de l'œuvre dans cette église naissante. En même temps, il va souligner en 1 Corinthiens 10, 32 que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Et ce qui m'interpelle dans ce verset, c'est l'ordre. Ne sois pas une occasion de chute, ni pour les Juifs qui ne sont pas sauvés, naturellement, ni pour les païens qui ne sont pas sauvés, naturellement, ni pour l'Église de Dieu qui est sauvée. Et c'est marrant qu'ils mettent en avant que notre vie doit être un témoignage pour ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Christ. En sorte que notre capacité de vivre et de vivre sur cette terre, dans un monde déchu, avec la souffrance que ça implique, doit viser le témoignage de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans un livre très vendeur par son titre, « Pourquoi faut-il souffrir ?» Le sens de la souffrance chrétienne, Dan McCartney écrit: nous devrions remercier Dieu de ce que les compagnies d'assurance ne couvrent d'habitude que des chambres à deux lits à l'hôpital, parce que les non-chrétiens peuvent ainsi observer comment souffrent les chrétiens. Et les chrétiens, sachant que leurs souffrances sont observées, sont plus conscients de leur appel à souffrir d'une certaine manière. Je crois que nous pourrions argumenter qu'il s'agit peut-être d'une des manières les plus efficaces d'avoir un bon témoignage. Ainsi donc, dans un certain sens, nos souffrances au nom du Christ sont souvent utiles non seulement pour notre propre croissance, mais pour la naissance spirituelle et la croissance des autres. Nous acceptons tout pour les élus, avec la gloire qui est associée. Notre évangile est rédempteur, notre passage sur terre est court et nos vies doivent être comme un aspirateur vers la personne de Christ. Et je termine sur mon quatrième point rapidement. Le moyen du service, c'est l'instruction. Alors, Paul débute avec cette affirmation, cette parole est certaine. Et on voit à quel point, tout au long de ses épîtres, et tout au long notamment des épîtres pastorales, Paul va mettre en avant l'instruction pour le ministère chrétien. Alors je sais que ce texte a une petite difficulté que je vais aborder rapidement, mais ce que je voudrais souligner, c'est en terminant ce petit propos qu'il a au chapitre 2, l'apôtre Paul veut souligner la certitude de ce qu'il dit, et ce qui me rappelle que Damien, alors que tu part avec Stéphanie et Jenny dans un autre environnement, un autre monde, un autre contexte, ne néglige pas la part de l'instruction. C'est par la parole de Dieu, par l'écriture, que Dieu accorde la nouvelle naissance. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et garde en tête que c'est aussi cette parole qui va édifier et construire ceux qui sont sauvés. Dans Timothée chapitre 4 verset 2, il dit « Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable au nom ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » Sur les 3700 et quelques versets que comportent nos quatre évangiles, plus de la moitié sont des enseignements du Christ. L'enseignement est central au service, l'enseignement que nous donnons en chemin avec nos enfants, l'enseignement que nous donnons tout au long de notre service à l'école du dimanche, que ce soit dans les colos ou camps, ou que ce soit dans l'église de maison ou à l'occasion de ce de culte, il est fondamental de d'instruire, de revenir sur Christ, fondement essentiel de la foi. Alors, il y a un petit poème qui est là, probablement le premier, l'un des premiers chants, avec Philippiens 2, on n'est pas trop sûr, qui était chanté par l'Église. Et il y a une promesse, hein. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Il y a une métaphore ici, dans les eaux du baptême, on meurt, c'est-à-dire qu'on représente la mort que nous avons vécue avec la conversion, la nouvelle naissance, et on sort de l'eau pour baigner en quelque sorte par un Dieu trinitaire, au Père, Fils et Saint-Esprit, qui contribue ensemble à notre salut. Et si nous sommes morts, ben, quelque part, ça se montre par le fait qu'il y a un demi-tour, il y a une repentance, il y a un changement. Donc on va vivre avec lui, on va vivre aussi cette résurrection lorsqu'il reviendra. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. La persévérance est le test de la réalité de la foi. C'est pas ce qui paye le salut, c'est ce qui reflète la réalité du salut. Il y a un excellent livre sur la persévérance de Kinner qui a été publié aux éditions Clés et qui montre que la persévérance est un ingrédient qui découle d'une foi authentique. Sans persévérance, il n'y a pas de salut. C'est pas parce qu'en persévérant, on garde ou on gagne le salut, mais la persévérance est le témoin du salut. Il y a des amis dans l'Église qui ont cheminé parfois en tant que responsables et qui n'ont pas persévéré. J'ai un couple d'amis qui est jeune, qui est passé par un certain nombre de difficultés et ils participaient à la louange. Et puis un jour, ils viennent me voir et disent « Florent, on s'est converti à l'athéisme ». Je dis, ah, ça c'est surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les chemins qui vous ont conduit à cela? Et ils m'ont expliqué. Et en fait, en cela, ils ont montré qu'ils n'avaient jamais connu cette mort à eux-mêmes et cette nouvelle naissance. Alors je dis, ah, oh, c'était tellement bien ce qu'on a appris à l'église, on va enseigner notre fille à le vivre. Moi j'avais un petit sourire, dans ma tête je pensais 2 ans. Mais 2 ans plus tard, effectivement, ils étaient divorcés et elle a épousé le responsable de la société d'athéisme de Lyon. Et en fait, son parcours a reflété qu'elle n'était jamais morte en Christ pour vivre avec Christ. La persévérance fait partie de ce témoignage de Christ et la bonne nouvelle, c'est que notre persévérance sera accompagnée du règne en Christ. Mais si nous le régnons, lui nous reniera. Le renier, ça ne veut pas dire que l'on perd le salut, ça veut dire que l'on démontre que l'on n'a jamais été vraiment lui. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes infidèles, et hélas, je dois lever la main, parfois j'ai été infidèle. En fait, je ne sais même pas si j'ai une journée où je n'ai pas été infidèle, mais lui demeure fidèle. Nous vivons dans la lumière, nous vivons en apportant auprès de Dieu notre difficulté, et lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est une bonne nouvelle que nous avons. Un salut complet qui nous réoriente. C'est dur à vivre, c'est dur à porter, c'est dur à présenter. Mais dans toutes les imperfections de notre vie, nous pouvons les compter sur un Dieu qui est fidèle pour les couvrir. Je termine. C'est ma conclusion. Je sais que ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de défis qui t'attendent. Et je prie qu'avec Stéphanie, vous soyez des exemples pour Jenny et que nous soyons tous des exemples pour ceux et celles qui nous entourent. Alors, par une indiscrétion de ton formateur, j'ai appris que tu aimais les champignons. C'est joli comme loisir, mais je trouve dangereux. Et c'est pas sans rappeler la beauté et les dangers du ministère. Parce que dans le ministère, plutôt que de mettre Jésus en avant, on peut mettre une doctrine en avant, ou on peut se mettre en avant. À la place de la souffrance, on peut commencer à avoir un petit message de bien-être. On est là pour se faire plaisir en tant que chrétien. Plutôt que de se focaliser sur les sauvés, on va se focaliser sur se mettre en avant, développer sa propre réputation, celle de son église, celle de son mouvement. On cherche pas le salut, on cherche juste l'entre-soi bien sympathique. Ou plutôt que d'instruire, on va encourager l'émotion, l'expérience, le ressenti. Voilà quatre champignons toxiques et destructeurs que je t'encourage à éviter et de garder en tête qu'au centre du service, il y a Jésus le Messie, que le contexte du service, c'est la souffrance, que le fruit du service, c'est les sauvés, que le moyen du service, c'est l'instruction. Et avec ça, je vous invite à la prière.